Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM. Donc c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'agir ensemble contre le chômage. Bonsoir, je suis avec Christophe. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux.
Et c'est moi-même Ludovic au micro, Claude à la technique et bien sûr Gilles qui est le grand absent de cette émission. Donc on va pas lui dédier cette émission parce qu'il nous a fait faux bond, mais voilà, on pense quand même un peu à lui. Voilà, eh bien, on va consacrer cette émission à deux sujets centraux qui ne vous ont certainement pas échappé dans les médias puisqu'on ne parle que de ça. Il s'agit bien entendu du tournant libéral de Monsieur François Hollande. On l'attendait au tournant, si on peut le dire. Oui, évidemment, les déclarations sur ce fameux pacte de responsabilité, après le pacte de compétitivité. on se demande ce qu'on va trouver la troisième fois. Hein. Voilà, donc plus sérieusement, c'est une demi-surprise, hein, puisque on savait très bien que François Hollande avait une âme sociale libérale. Et puis, nous parlerons dans un deuxième temps, et bien entendu, du projet de convention UNEDIC, donc de la négociation UNEDIC, qui va commencer ce mois-ci. Voilà, avec plein de bonnes choses réjouissantes au programme. Et puis, mais avant de commencer cette émission, nous aurions aimé faire un hommage.
Oui, alors cette émission est dédiée à Ida Cohen, qui est décédée il y a deux jours. Ida Cohen était secrétaire générale de la CGT des techniciens et cadres de la ville de Paris. Nous dédions à toute sa famille, ses proches, mais aussi ses camarades de cette émission à Fréquence Paris Pluriel. Ida, on n'oubliera jamais ton énergie, ta gentillesse et le fait que tu étais non seulement un atout dans le dialogue social et pour la défense du service public, ta foi soulevait des montagnes, et c'est bien triste qu'on apprenne d'un seul coup ta disparition, surtout que moi j'aimais beaucoup ton sourire et ton énergie de petit bout de femme. Je te voyais encore mardi au moment des vœux du maire, et ce soir j'ai les boules, j'espère que tu es au ciel et que tu es déjà béatifié pour bénir nos luttes. Voilà Ida, on pense tous très fort à toi. Salut.
Voilà, et bien voilà, décès d'une militante. En action. Alors Christophe, donc je suppose que comme moi, tu étais suspendu à ton téléviseur. Il y avait quelque chose vraiment de très important. C'était hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Je crois que c'était avant-hier, n'est-ce pas? Puisque on était quand même en plein dans l'affaire Julie Gayet. Et donc ça, c'était, enfin, la présidence, l'enjeu, la présidence était menacée, quoi. Manifestement, les médias allaient enfin pouvoir se repaître de quelque chose. Soi-disant président normal.
Posons-la clairement la question. Amour, gloire. Quand on est président de la République, on l'a. Beauté.
C'est pas sûr. Hein.
En tant que président, la beauté.
Ça vient tout seul.
Amour, oui.
Tout à l'heure.
Mais est-ce que amour, gloire et beauté
vont ensemble.
Offrent la compétitivité, un pôle de compétitivité à la France? Et non. Et non, donc après le pacte de stabilité, le pacte d'attractivité, j'en passe et des veilleurs, voici sortir à la conférence de stress sous le titre vers un compromis social historique, ce fameux pacte qui couvre quatre chantiers. Alors déjà, je vais les énumérer parce qu'il y a et j'expliquerai ensuite les conséquences en 3 minutes, puis on commencera à discuter.
Oui, on va discuter quand même. Vous allez
pas
parler tout seul.
Parce que là, on parle des chômeurs et des précaires dans cette émission, mais on.
Oui, c'est vrai, c'est une émission sur le chômage. Et là, on parle des entreprises.
Et les luttes sociales, hein.
Les luttes sociales, absolument.
Afférentes, les entreprises. Mais il y a aussi un tournant économique chez nous. Donc, la poursuite de l'allègement du coût du travail. Ah bon, parce que plus un salarié plus coûte moins cher, plus il rapporte de l'argent. C'est nouveau et mieux il peut vivre. Ah bon, très bien, je veux bien. Déjà amorcé avec le crédit impôt compétitivité, baptisé sigle 6, qui en 2014 va permettre 4% d'allègement de la masse salariale, puis 6% l'année prochaine.
Ah, mais ça, c'est. Écoute, arrête de lire les chiffres gouvernementaux, c'est insupportable. Je vois très bien ce que tu es en train de lire, gouv.fr.
C'est pour les entreprises d'ici 2017, cela représente 30 milliards d'euros de charges. Et comment peut-on s'inscrire dans ce processus sur le mode de financement de la protection sociale? Donc c'est bien l'ensemble des salariés qu'ils aient le statut de précaire, de chômeurs.
Les familles, les actifs qui vont payer,
mais aussi les retraités indirectement, puisqu'on touche à la protection sociale.
Alors oui.
Bienvenue.
Alors,
Marisol
Touraine a dit que non, on ne toucherait pas au montant des prestations. Marisol Touraine, la ministre.
Elle l'a dit. Non, monsieur, avec 50 milliards d'euros, on touche forcément aux protections sociales et aux droits des salariés parce que ça coûte trop d'argent.
C'est 30 milliards.
Oui, mais c'est 50 milliards sur 2 ans.
Oui, enfin bon, on reviendra sur les chiffres tout à l'heure. Continue.
Alors, la deuxième chantier, c'est une planification une modernisation de la fiscalité sur les sociétés avec une diminution du nombre de taxes, avec deux exigences, l'investissement et l'emploi. Alors, l'investissement, pour le MEDEF, il est fait.
Bah oui, il fallait voter François Hollande. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais...
Même Sarkozy a pas osé, ça.
Alors, ouais, c'est ce qu'on se dit, en fait, sérieusement, c'est que finalement, François Hollande est en train de faire ce que Sarkozy n'a pas pu faire. C'est réellement baisser les charges sociales. C'était une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy, souvenez-vous. Il avait parlé de baisser de quatre points, les charges sociales. C'était beaucoup à l'époque, hein. Mais on était pas encore en crise. Donc Sarkozy en est arrivé, François Hollande l'a fait. Donc on peut lui tirer notre chapeau, c'est un excellent président libéral en quelque sorte, hein, sans aucun doute. Alors t'as pas tout à fait fini, Christophe,
ou... Non, mais je constate qu'avec amour, gloire et beauté, ça fait durcir le ton, parce que Sarkozy Monsieur Sarkozy véhiculait l'image d'un cavaleur libéral mou.
Oui, c'est vrai qu'on a quelque chose de beaucoup plus violent.
On a un scooter balayant souple, mais avec une optique dure. Ouais.
Alors, moi, ce qui m'a frappé dans les mesures, je dis ça, c'est mon impression. À moi, c'est que on se focalise un peu sur ce tournant donc libéral, sur cette baisse des charges. Donc, c'est hautement symbolique pour le patronat. Évidemment, c'est une baisse des charges, le coût du travail. Donc, c'est une politique de
l'offre. Ça a été demandé par le lobby associatif des entreprises du CAC 40 et aussi certains syndicats qui se frottent les mains, comme le CPGE pour les petites et moyennes entreprises et l'artisanat.
Pas forcément. Oui, alors peut-être qu'ils l'ont demandé, mais en tout cas, c'est pas sûr que ça leur profite parce que le problème des artisans, c'est quand même que leur carnet de commandes. Or, si leur carnet de commandes est vide, hein, ça leur fait une belle paille de voilà. Mais par contre, il y a quand même deux choses. Hein. C'est qu'effectivement, le MEDEF avait demandé, lui, 100 milliards au total. Hein, c'est-à-dire, à la fois, je crois, 50 milliards sur les cotisations sociales et 50 milliards en baisse d'impôts. Or, il semblerait qu'il y ait déjà dans les tuyaux une baisse de la fiscalité sur les entreprises qui soit à Bercy. Et alors surtout, bon, les 30 milliards, alors on se focalise là-dessus, mais finalement actuellement il y a 10 milliards accordés via le CICE.
Il n'y a pas un emploi qui est créé.
Voilà.
Hein.
Ah bah pour le moment, oui, ben non, pour le moment le chômage augmente. Donc voilà. Voilà, hein. Et ensuite, il semblerait dans un an ça sera 20 milliards le CICE, et puis il restera 10 milliards à trouver. Il est fort probable qu'on tape légèrement du côté des allocations familiales, ça c'est sûr. Mais la vraie annonce en réalité, c'est les 50 milliards jusqu'en 2017 de coupes de dépenses dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on arrive à un total de 75 milliards sur la mandature. C'est bien plus que ce qu'aura fait un certain Nicolas Sarkozy dans sa précédente mandature. Ça vous donne comme une idée de la trajectoire sur laquelle on est, quoi. Et donc pour finir sur ce thème, 50 milliards, hein, disons que je sais pas les revenus fiscaux cette année, c'est quoi, c'est 280 milliards d'euros. Donc
pour les entreprises du CAC 40.
Non, les revenus fiscaux, les impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Et en fait, dans le budget de l'État, ça représente une masse considérable. Donc, en réalité, c'est bien la politique de rigueur qui va se poursuivre,
hein, tout à fait.
Contrairement à ce que disent certaines personnes de l'OFCE que j'ai lu, il y aura quand même une réduction de la masse salariale dans le public, et surtout une anatomie de la demande, parce que ça fera des emplois en moins de toute façon.
Tout à fait.
Voilà. Et du salaire en moins. Donc
alors il faut savoir que dans ce pacte de compétitivité, il y a un troisième chantier, c'est la simplification par la réduction du nombre de normes et de procédures. Alors ça pose un gros problème, parce que d'abord, nous sommes en France, c'est-à-dire que les labels ISO 9002, certifié Veritas, Cabinet Veritas, c'est du pipou. Et on a baissé le nombre de personnes qui font tout ce qui est du domaine du contrôle en France, que ce soit l'inspection du travail ou autre. Donc là, il y a une problématique parce qu'on est dans le flou complet, mais ça peut avoir des conséquences sur les conditions de salaire, les conditions d'embauche, les conditions de licenciement, c'est le flou le plus total. Oui, et alors, les contreparties, parce que moi, je voulais en arriver là. Alors ça, c'est de la prose socialiste libérale pure jus. On est de gauche. Il y a vous voyez, imaginez le capital, c'est un gâteau. Et alors, la différence entre la droite et la gauche, c'est, M. Sarkozy, il arrive, c'est la galette des rois. Il fait, je veux la plus grosse part. Il prend tout. Voilà. Il faut aller manifester pour avoir son petit bout en tant que salarié. Puis alors, il y a le banquier qui est à côté, donc le voleur assermenté, il y a le financier, le deuxième voleur assermenté qui serve et tout. Puis il y a le mec qui bosse, il fait hey, paye-moi une petite part, voilà. Et puis il y a Monsieur Hollande qui fait j'aime les pauvres. Alors lui, Monsieur Hollande, il coupe pas la moitié de la galette, tu vois, il fait une petite part. Et puis un huitième, un dixième pour les pauvres, ça existe. Et puis il distribue à tout le monde, il fait oh, il y en a plus pour les pauvres. Oh mais il reste les miettes. Voilà, c'est ça la différence. Donc, et comment on le comprend dans la prose socialiste et des élites socialistes, c'est bah, le pacte de responsabilité, c'est un grand compromis social parce que tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un observatoire des contreparties. Un bidule, un machin, comme dirait De Gaulle, pourquoi faire « Oh, le patronat s'est servi !» Oh ben, on ne savait pas, on vient de l'apprendre, Madame Michu. Non mais attendez, c'est voilà, bon.
Surtout qu'ils sont...
voilà, elles doivent être définies au niveau national, les contreparties doivent être définies au niveau national et déclinées par branche professionnelle. Autrement dit, on a déjà tout décidé pour donner du pognon au patronat, et vous me verrez, « Ah ben alors, comment ça se fait que l'État, il n'a pas de sous ?» Non mais bon, voilà, c'est ça, en gros. Donc, ça, c'est la première partie de ma
intervention,
colère.
Oui.
Voilà, si tu veux, on peut faire une petite pause, parce qu'ensuite, je vais expliquer pourquoi un pacte de compatibilité,
de compétitivité,
un pacte d'attractivité,
de responsabilité
du capital et de l'engrangement du pognon, ça ne marche pas en France, et ça ne peut pas marcher, que ça sert que le patronat, les riches, le capital et des gens qui sont payés à rien foutre parce qu'ils sont actionnaires. Voilà.
Bon, bah, on va suivre les conseils hein, de notre ami et on s'écoute une petite musique. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Et donc, eh bien, on continue sur ce fameux pacte de responsabilité de Monsieur Hollande. Alors, la grande question, en fait, c'est qu'en disent les économistes ? Qu'en disent les économistes ? C'est quand même important. Ils se trompent quand même pas souvent, et on a besoin d'eux. Hein, pour... Et voilà. Alors, il se trouve que le président a lâché une petite phrase dans sa conférence de presse où il a dit l'offre crée la demande. Et donc tous les économistes se sont rués dessus en disant « Ah mais ça c'est une phrase de Monsieur Jean-Baptiste Say, un célèbre économiste français du XVIIIe siècle, dont moi on m'apprenait qu'il était sous-coté par rapport à ses collègues anglo-saxons. Et donc effectivement c'est le credo, alors tout de suite, hein, c'est le credo en fait de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire en fait il faut produire... un maximum du fait d'une surproduction, le consommateur s'y retrouve. Alors je sens que Christophe, tu brûles l'envie de commenter.
Ouais, mais il y a une contradiction puisque John Mayer Keynes a critiqué la loi de Say et a fait de sa réfutation la base de la théorie de la relance par la demande, jusqu'ici traditionnellement assimilée à la gauche. Autant dire que les propos de François Hollande ont choqué l'aile gauche du PS et fait sursauter les économistes keynésiens. C'est une erreur de diagnostic flagrante, réagit Éric Meyer, directeur adjoint de l'OFCE. Dans la théorie de Jean-Baptiste de Say, l'offre crée sa demande et il ne peut y avoir de crise de surproduction. Or, aujourd'hui, tous les indicateurs, et je le vois dans mon assiette, indique que nous sommes dans une crise profonde de surproduction.
Bah, t'es riche alors si t'es pleine.
Non, justement. La demande est inférieure à l'offre de 4 points. 67% des chefs d'entreprise déclarent rencontrer un problème de commande et les capacités de production sont sous-utilisées. Donc on manque pas d'industrie en France. Mmh. On en a, mais on n'a pas assez de demande parce qu'on n'a pas augmenté les salaires. Ça a été où ? Dans les poches du...
pas trop
voilà. Voilà. Pour financer ces baisses de charges, François Hollande a bien sûr exclu d'augmenter les impôts des ménages. Il a privilégié la baisse des dépenses. Donc merci les fonctionnaires, on va en prendre plein la figure. Mais pour l'heure, le financement des 30 milliards d'euros reste indéterminé. Seuls 10 milliards le sont via la hausse de la TVA intervenue le 1er janvier. Comme ça, tout le monde a payé, sauf les riches à qui ça fait beaucoup moins mal. Les 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires entre 2015 et 2007 annoncées par le chef de l'État doivent excusez-moi permettre de réduire le déficit public. Alors, il y aura moins de destruction d'emplois, mais en fait, c'est un véritable cadeau du MNEF. C'est-à-dire que c'est un deuxième Noël. On avait les étrennes, le sarkozysme révélé tous les matins dans la communication. Là, c'est des étrennes permanentes. Pourquoi ? Parce que... comme l'a dit l'INSEE, mais aussi un certain nombre d'organismes au niveau statistique, à partir de 2015, la pyramide des âges va s'équilibrer et tous les papy boomers seront à la retraite et les jeunes actifs vont pouvoir mieux s'insérer. Donc il y aura une baisse du chômage systémique.
En principe, hein, ça c'est la théorie.
Ça c'est la théorie, mais c'est
parce que,
logique.
Alors c'est là-dessus qu'ils miseraient, parce mais que si tu t'en fous dans une forme de dépression...
Mais bien sûr, le problème c'est qu'il y a deux facteurs d'avoir la mondialisation, mais au-delà... Alors c'est pour ça qu'il a fait cette stratégie, François Hollande. Moi je pense que c'est à cause de ça, parce qu'à partir de 2015-2020, on va moins parler du chômage.
Sauf qu'on va parler beaucoup plus de la sécurité sociale et des retraites, là, pour
exactement.
Le coup.
Exactement, et là c'est la deuxième erreur, à mon avis... cette dépression va continuer et n'ira pas en mieux parce que les salaires n'ont pas et le point d'indice n'a jamais été augmenté depuis près de 10 ans.
En ce qui concerne les fonctionnaires, bien sûr.
Et puis le niveau de vie général des classes ouvrières et moyennes.
Tout à fait. Alors justement, oui, ça appelle. Il y a quand même un débat de fond à travers ça. Bon, qu'on est bien ici, qu'on est bien en peine de trancher, mais quand même, il y a une petite différence hein, entre cette politique de l'offre qui est promue en fait au départ, qui était promue par Ronald Reagan, ça ne vous étonnera pas, et qui consiste à lever les freins réglementaires et fiscaux à la production de biens. Donc, CQFD, le volume de production crée la demande. Alors, il faut quand même rappeler. Que sous le mandat de Reagan, le premier mandat de Reagan, le déficit extérieur, avec cette politique hein, de déréglementation, le déficit public et le déficit commercial des États-Unis ont explosé. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les résultats attendus. Parce que c'est aussi un argument qu'on entend en France, c'est-à-dire que si on augmente les salaires, donc c'est-à-dire qu'on joue sur la demande, eh bien, on va creuser mécaniquement le déficit extérieur. Enfin, en tout cas, c'est ce que disait Stéphane Le Foll. Et donc, aggraver le déficit de la balance commerciale et blabla. Et donc, pour l'euro.
Ce qui est totalement faux, parce que 70% de nos biens de consommation courante et autres sont produits en France.
Le déficit commercial avant la crise n'était pas si dramatique que ça. Et on avait une consommation qui était bien élevée. Mais soi-disant, effectivement, ça mettrait en péril plus la balance extérieure, la balance commerciale est basse et plus ça fragilise l'euro hein. Bon, grosso modo, on a quand même bien compris que cette politique là était largement inspirée, était même une mise en application finalement de ce qui avait été négocié et signé à Bruxelles, puisque François Hollande parle effectivement de mettre en place un comité de suivi de la dépense publique, ce qui était une exigence de Bruxelles. Bon.
Oui, bon, voilà. Je t'ai dit mon avis sur la notion d'observatoire dans la prose sociale ou énarque.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en plus, sauf que là, ça risque d'être méchamment contraignant. Alors effectivement, du côté des contreparties, c'est simple, il y en a pas. Et comment pourrait-il y en avoir de toute façon. Voilà. On a un auditeur en ligne. Allô.
Allô. Oui.
Monsieur, qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous?
Oui, c'est Gilles, pareil.
Ah, Gilles, l'ancien animateur de cette émission, à la retraite. Bon, écoute, c'est bien. On va vous laisser parler parce que, voilà, vous avez...
Merci de donner la parole.
Monsieur Gilles, on vous écoute.
Oui. Voilà, non, j'étais, moi, un petit peu horrifié parce que j'entendais, pas chez vous, parce que c'était très bien, mais ce que je lisais plus ou moins dans la presse par rapport à ces aides aux entreprises... C'est 30 milliards, là. Au début, c'était 100 milliards, le président...
Alors, 100 milliards, c'était demandé, c'est ce qui était demandé.
Oui, c'était demandé, 100 milliards demandés, et puis le président du MEDEF disait, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai plus ou moins compris dans la lecture de ce texte, disait qu'il pouvait, grâce à ça, en contrepartie, créer 1 million d'emplois sur 5 ans.
Et donc, tu t'es dit chouette.
Je dis, c'est super ça, pourquoi il l'a pas fait avant alors, hein? Donc moi, je me dis qu'il y a un truc, il y a, ou bien c'est un mensonge éhonté, et donc faut pas prêter, et faut arrêter de donner aux entreprises, parce que s'il n'y a pas eu d'emploi avant, il n'y en aura pas plus aujourd'hui, hein, faut pas rêver.
Bah, surtout, c'est-à-dire que la politique de baisse de charges, elle est quand même, quoi qu'on en dise, depuis 10 ans sur les entreprises. Pour vous donner une idée, il y avait Attaque avait produit, donc c'était en 98, je crois, dans sa brochure, elle estimait à 60 milliards les allègements fiscaux, le coût des allègements fiscaux pour les entreprises, juste pour les entreprises.
Oui.
Donc c'était déjà, on est toujours dans une politique permanente de la baisse de coût du travail.
Tout à fait, avec des créations d'emplois qui ne sont pas présents non plus, qui ne sont pas là. Enfin,
non. On n'en voit pas la couleur, en tout cas.
Quand on regarde, par exemple, la loi qui a été faite sous la droite en 86, je crois que c'est ça, ça peut être rectifié, sur le droit de licencier sans passer par l'administratif, hein, je crois que c'est
84.
84, merci. Eh bien, il n'y a pas eu spécialement de création d'emplois. Pourtant, c'était une promesse du MEDEF, de l'ancien CNPF, de faire ce genre de choses, de créer des emplois.
Non, mais c'est un discours qu'on connaît depuis des années.
Il y a une impasse quand même, semble-t-il, hein, c'est que, alors justement là, ce que disent donc les économistes, c'est que finalement, de fait, si la production précède la demande, c'est-à-dire qu'il faut effectivement produire pour voir le résultat de, est-ce que la production va partir ou pas, est-ce que ce qu'on a produit va être acheté ou pas. Or, ça ne marche en fait que dans un climat psychologique favorable en quelque sorte, c'est-à-dire où un climat de croissance, où c'est-à-dire une entreprise peut prendre le risque de produire un peu plus, donc un peu plus si elle a un retour sur investissement en fait, hein, en quelque sorte. Alors justement là, est-ce que là il est judicieux de multiplier, donc de lever effectivement les obstacles à la production, sachant que dans le même temps on a augmenté les impôts sur les 2 ou 3 dernières années, donc on a amputé d'autant de pouvoir d'achat pour les ménages, et que on est dans une stagnation, en tout cas a priori pour l'année 2014, qui risque, hein, simplement de provoquer une espèce d'anomie de la demande, simplement. Donc il y a une espèce d'impasse, c'est une course perpétuelle en fait à la au moins 10 ans sociale en quelque sorte. Il me semble. Hein.
Ah oui, je suis d'accord. Mmh. Je suis complètement d'accord, mais d'autant plus que les promesses faites par le MEDEF de créer des emplois, donc eux ils créent également de la demande, puisqu'ils demandent effectivement à des salariés de venir les faire du travailler en fait, hein. Mmh. Et donc il y aura moins de chômeurs a priori selon leur dire, mais il n'y a pas effectivement sur le marché français de consommation. La consommation elle est carrément morte.
Elle est à tonne.
Elle
est à tonne, oui.
Elle est à tonne, c'est ça. Donc effectivement, il n'y a pas de demande. Donc effectivement, ils ne peuvent pas produire des choses que les gens ne vont pas acheter. Donc ce sera à perte. Donc il y a toute une politique européenne qu'il faut mettre en place, en fait, depuis, ça fait longtemps qu'on y réfléchit, à mode d'emploi comme ailleurs, d'ailleurs. Mais cette politique n'est jamais mise en place. Parce que la politique actuelle, c'est la politique de la rigueur. Comme dans tous les autres pays en Europe. Et la politique de rigueur consiste à faire quoi ? À baisser les salaires,
le coût du travail,
indirectement, le coût du travail,
le revenu du travail, absolument,
et les prestations sociales compensatoires.
Les prestations sociales, et c'est toujours les plus pauvres qui sont mis au pilori. Il faut regarder, je sais pas, j'ai plus le chiffre en tête, mais il faut regarder ce qu'a rapporté les entreprises du CAC 40 aux actionnaires. C'est une somme qui est absolument colossale. Et donc ça, il faut redistribuer ça sous forme. Je ne suis pas du tout un homme politique, mais je ne sais pas sous quelle forme faut redonner ça, mais il faut redonner ça sous une certaine forme à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus petits, les plus humbles de notre pays, ceux qui ont le moins de ressources. Et il faut arrêter de taper sur les plus faibles, quoi. C'est ça qui me scripte, tu vois. Oui, je suis un peu crispé par ça, parce que je veux dire que on continue, et en plus, il y a un mec qui vient nous dire à la télévision ou à travers les journaux, avec sa gueule de premier de la classe, comme dirait Coluche, qui vient nous dire que lui, si on lui baisse 100 milliards de trucs sur ses sociétés, J'ai fait en gros exprès hein, de grossir le trait.
Oh, c'était ça, c'était 100 milliards. Non,
oui,
non,
oui, voilà, il s'est demandé 100 milliards, il ne les aura jamais.
Il aura 30.
Il aura quand même 30, hein, faut quand même le voir comme ça. Hein. Il dit, mais 100 milliards, il dit, bon, bah, si on me donne 100 milliards, je crée 1 million d'emplois. Bah, on n'a qu'à lui donner 200 milliards, comme ça, il en crée 2 millions, les emplois, dans ce cas-là, tu vois. Donc là, il faut... C'est du foutage de gueule. Et ces mecs-là, moi, je me demande ce qu'ils font à ces postes-là. Franchement, ils sont payés pour dire des conneries à la presse en française. Il faut arrêter ça. Et voilà, donc c'était un petit peu mon coup de gueule de ce soir. Mmh. Je vous remercie de me l'avoir permis. Et puis,
c'est... Bah oui, mais c'est le système, mon cher monsieur.
Non, mais là où je suis d'accord, enfin, il y a quand même une chose à préciser, c'est qu'on a aussi un patronat. Hein. Qui a tendance à favoriser les grandes entreprises. Parce qu'on a le sentiment hein, que la baisse des charges actuellement profite plutôt pour les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'ils peuvent, les grandes entreprises peuvent trouver, surtout si elles ont un accès à l'international, un moyen de trouver des débouchés, en quelque sorte. C'est pas le cas de l'artisan qui vend sa production au coin de la rue.
Mais tout à fait. Mais là, tu pointes l'erreur, et ce que a parfaitement résumé Keynes, c'est que il faut pas oublier que la construction de la richesse de la France, elle s'est faite dans les 30 glorieuses après la guerre, parce que les Français s'enrichissaient, qu'on était dans une période de plein emploi total, tout était à reconstruire, la force est industrialisée au prix d'un embêtement public qui est modeste par rapport à celui d'aujourd'hui, mais on oublie deux détails. C'est qu'entre cette modernisation, c'est accompli de nouveaux droits sociaux, que ce soit la construction d'assurance nationale chômage, la création de Pôle emploi en 74, mais aussi le SMIC, parce qu'il y avait des grilles de indiciaires et d'échelles de salaire dans la fonction publique, dans les quatre fonctions publiques, qui au début, à la fin des années 60, étaient telles. Donc le SMIC, la création du SMIC, des choses comme ça. Mmh. C'est du pouvoir d'achat français. Ce qui est logique,
qui
ça permet de consommer.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu un cercle vertueux.
Un cercle vertueux, sachant
qu'à l'époque, l'État avait un rôle moteur, en fait, dans l'investissement.
Absolument, sachant que 90% des à l'époque, en France, on produisait 80% de ces biens sur le territoire. Mmh. Ce qui plombait le déficit, c'était quoi ? C'était le pétrole qu'on n'a pas.
Et c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Voilà. Mmh. Donc, je veux dire, c'est une équation extrêmement simple. On a un pays qui a des atouts par rapport à la concurrence internationale, c'est qu'on est dans une position centrale. Et le fait qu'on ait vécu une guerre il y a 70 ans a fait qu'on a des infrastructures qui sont neuves et adaptées par rapport au trafic. Et mais on a fait trois erreurs. Mais alors, d'abord, il y a des erreurs... théorique des libéraux. Premièrement, privilégier l'économie de la connaissance. Au détriment du tissu industriel, ce qu'ont pas fait les Allemands. Donc on a perdu l'équivalent d'un an de budget ou deux ans de budget de l'État, c'est-à-dire des centaines de milliards, en faisant ça. Ça, c'est la première grande erreur. Faire une économie des services, c'est de la connaissance.
Même c'est si, de toute façon, la part de l'industrie baisse aussi en Allemagne.
Oui, mais c'est la première
grande
erreur.
C'est un
déclin. C'est la première grande erreur. La deuxième grande erreur qui a été faite, c'est ces non-contreparties de baisse de charges au niveau patronal, qui ne sont pas inscrites dans la loi. Le patronat veut quoi ? Le patronat veut des esclaves et fera tout pour parvenir à cette fin. C'est ça le but d'être patron, c'est de gagner de l'argent en vendant des produits et de s'enrichir le plus possible. Bah oui, c'est ça.
C'est son objectif.
C'est l'objectif numéro un. Et qu'est-ce qui contraint l'homme pour, dans sa domination de l'homme par l'homme ? C'est la loi.
Voilà. Oui. Bon, c'est le contrat social. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Gilles, parce qu'on va bientôt clore sur ce chapitre. On y a passé une demi-heure.
Oui. Pour ce qui me concerne, puis après je vous laisserai tranquille.
Non, tu peux rester à l'antenne, il n'y a pas de problème.
Merci. Oui. Non, juste pour effectivement, Christophe a raison. Les esclaves, ils sont déjà là. Hein, quand on voit effectivement les ouvriers ou les salariés d'une entreprise privée avoir peur de dénoncer des choses pour de peur de perdre son emploi. Quand par exemple il faut défendre un ouvrier qui a un problème avec un prud'homme ou avec un de ses patrons parce que le patron il y a une plainte pour sexisme, etc., et qu'il faut chercher des témoins autour de soi dans l'entreprise pour pouvoir justement avoir gain de cause auprès du prud'homme.
Oui, le chômage fait une espèce de chantage, en fait.
Le chantage au chômage marche très très bien. Donc effectivement, on a une société, malheureusement, aujourd'hui, Christophe a complètement raison là-dessus. On a encore aujourd'hui une classe ouvrière, ou je sais pas comment on appelle ça maintenant,
d'employés,
salariales en tout cas.
Prolétaire, tu veux parler du prolétariat.
Précaire,
voilà.
Complètement terrorisé par effectivement le chantage au chômage. Et donc maintenant, les actions. Regardez, tenez, si on prend la force du syndicalisme en France, dans le privé, c'est une cata totale, quoi. Je veux dire, les 15% de gens qui sont syndiqués sont dans le public.
Oui, je crois que c'est moins d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est même moins que c'est 15% moins. Dans le public.
Même moins, tu vois. Donc voilà quoi. Ouais.
Voilà, et eh bien, oui.
Bon, en tout cas, ce débat sur l'attractivité, la compétitivité des entreprises et le pacte de monsieur François démontre une chose.
François Ier.
J'ai un truc à vous dire. Je suis de droite.
Voilà, oui. Et donc, ça tombait bien puisque ça lui a quand même sorti d'une.
Mais je roule en scooter.
Oui, et puis voilà, et puis je suis à la sortie d'une affaire de vaudeville, donc ça, voilà. Bravo, en tout cas, au point de vue de la com, monsieur le président, c'était parfait. Oui, bonsoir à tous et à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, contrairement à ce que la musique vous pourrait vous laisser penser.
Nous avons fait passer du Pierre-Henri, le titre s'intitule
Rêverie des rochers perforés.
Ah oui, parce qu'après la lutte finale que nous essayons avec les syndicats, si Ida nous entend, nous venons d'atterrir musicalement sur le contrat social de François.
D'accord. Oui, voilà, mais voilà. Donc, effectivement, c'est de la musique contemporaine.
Il y en a un qui rigole en technique.
Ah oui, alors je tiens à préciser qu'ici, c'est Claude qui s'occupe de la programmation. Donc, pour toute réclamation, n'hésitez pas à lui écrire.
Et ce contrat social sonore ne nous regarde pas.
Quoi que vous pouvez l'appeler aussi au 0140 05 06 10. Je ne l'ai pas dit en début d'émission, au 0140 05 06 10. Voilà, alors on va passer à des choses sérieuses maintenant. Et donc, ce profil, la renégociation de la convention Unédic. Alors, on a beaucoup parlé il y a 15 jours. Et donc, j'ai réécouté l'émission il y a 15 jours parce que moi-même, je ne me souviens plus de ce que j'avais raconté. Et donc, je me suis dit que finalement, l'émission présentait bien, grosso modo, hein, les enjeux. Donc, grosso modo, hein, on peut se dire, a priori, que cette annonce de François Ier, donc François Hollande, bien sûr, ne tombe pas au hasard, cette annonce de baisse des charges, puisque finalement, tout se passait comme s'il était en train de dealer avec le MEDEF une baisse des charges contre une non-négociation, et c'est mon avis, de la convention Unédic. Pourquoi ? Parce que François Ier a beau être quelqu'un, un libéral senti, on voit mal, malgré le déficit cumulé de l'UNEDIC qui sera estimé cette année à 22 milliards, donc déficit cumulé, j'entends bien, on voit mal le patronat durcir les conditions d'indemnisation alors que le chômage perdure, petit a, que la courbe, on est en janvier, la courbe du chômage ne s'est pas inversée. Hein, donc c'est un objectif politique de François Hollande qui l'a perdu. Et surtout que le chômage de longue durée fait des ravages. Il faut rappeler quand même que si on enlève l'ASS, on n'a plus que 40% des chômeurs qui sont indemnisés. Un peu plus de 40%.
On avait évoqué cette situation, voilà. Notamment par des tracts de la CGT du Sud qui évoquaient la situation dramatique de cette centaine de milliers de chômeurs de longue durée qui allaient se retrouver dans la misère.
Exactement. Et qui ne comptent plus pour ceux qui le peuvent pour l'ASS. Donc, mais il faut quand même imaginer, hein, que parmi les chômeurs qui, donc des chômeurs total, voilà, qui font partie, donc qui ne travaillent pas, il faut compter quoi, 6-7%, la moitié d'entre eux n'ont même pas droit à la SS. Ça veut dire qu'ils ont même pas travaillé 5 ans dans les 10 ans qui les précèdent. Donc c'est une pure catastrophe, et donc ces gens-là effectivement sont au RSA, où ils sont absolument, avec une compagne qui est
oui.
Donc voilà, et confirme. Explose aussi les contrats courts, c'est le principal motif d'entrée en la fin des CDD toujours, mais les contrats de courts de moins d'un mois sont en explosion, et c'est ce qui effectivement provoque du chômage qui est difficilement indemnisable, d'où le fait qu'on ait réduit la convention Unédic à 4 mois. Exactement, donc c'est une spirale à pauvreté. Donc pour toutes ces raisons, on voit mal effectivement mais on peut s'attendre à tout après tout, hein, bien sûr, mais on voit mal effectivement le gouvernement renégocier à la baisse, mais ça rien n'est sûr, et notamment vouloir rétablir la dégressivité, ce qui serait vraiment encore un coup très très rude, hein, pour les chômeurs, et en termes de pouvoir d'achat, ça serait une catastrophe.
Je pense que même si les décrets vont paraître en période estivale après un 6 mini négociations, je pense objectivement que cet élément révélateur de, au fait, les capitalistes, après la galette des rois, je leur file 50 milliards, je pense que cet élément serait vécu par une telle provocation de la part des syndicats traditionnels, Sud, CGT, que même la CFDT qui fait des papouilles au patronat,
en tout cas dans le siège de l'Unédic,
qui est aujourd'hui, on peut dire, une officine officieuse du Parti Socialiste,
ouais, ils ont l'air prudents quand même là,
prendrait quelques distances. Encore que, du fait des carrières promises, des petits colibets qui sont donnés à certains anciens secrétaires de la CFDT, hein, bien méritants, c'est mon regard.
Oui, bon, on a compris, Christophe.
Ils sont capables de faire des chèques en bois, enfin, ce qu'on appelle des chèques en bois aux chômeurs. Je suis en droit de douter de la volonté de la CFDT, objectivement, de défendre les chômeurs en cas de baisse de cotisation et de dégressivité.
Bon, en tout cas, on verra bien au cours des négociations. Il y avait un autre dossier qui pouvait être chaud, c'était pour les intermittents du spectacle, donc on en avait aussi parlé à cette émission. Alors, effectivement, le régime des intermittents du spectacle pourrait être négocié, c'est-à-dire que, pourquoi pas, après tout, porter, inclure les techniciens dans le régime général, et c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises ne se défaussent pas sur le régime d'assurance pour finalement payer ses techniciens. Voilà, donc ça.
Tu vois, ces rêveries chaotiques de Pierre-Henri aboutissent au programme du MEDEF.
Voilà, mais bon, là-dessus, rien. En tout cas, il n'y a pas plus d'informations, sachant qu'en fait, grosso modo, les municipales approchent, malgré tout, et qu'on voit mal une négociation désavantageuse, en fait, hein, pour les socialistes, juste avant les élections. Bon. Voilà, donc la suite nous dira ce qu'il en est, et puis on pourra bien entendu en reparler.
Il y a aussi les Européens qui ne sont pas oubliés, qui peuvent changer de la donne au niveau de la politique sociale européenne et des normes, des décrets qui sont édictés.
Et c'est quand les Européennes?
C'est en juin.
Voilà, bon, ça va faire deux échéances test difficiles pour le gouvernement. Bah, je crois ne pas trop m'avancer. Voilà, donc on va passer à un autre sujet. Christophe, qu'est-ce que tu as sous le coude?
Eh bien, je voulais évoquer un problème d'ordre plus ou moins juridique, puisqu'on évoquait la situation en ce qui concerne les salariés qui sont, pénibilité au travail. Donc, combien de Français sont concernés, puisqu'il y a eu des grandes études sur ce sujet? Alors, avec de plus en plus de chômeurs qui sont de plus en plus précaires et des gens, la pénibilité, la rentabilité sera de plus en plus forte, hein, donc ça concerne tout le monde. Donc, d'un secteur à l'autre, les causes principales de la pénibilité au travail, c'est notre deuxième dossier, vous êtes toujours bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Merci Christophe.
Dans l'émission Mode d'emploi, quelles sont les principales causes de la pénibilité? C'est le bruit, la température, les postures douloureuses. Donc 38,7%, c'est la proportion d'emplois qui sera exposée à la pénibilité en France selon une étude menée récemment par Altair Conseil. Avant d'arriver à cette conclusion, le cabinet de conseil en management des organisations et des ressources humaines, prévention des risques et gestion de crise a réalisé des diagnostics pénibilité dans une cinquantaine d'entreprises sans se limiter aux grands groupes. ETI et PME étaient aussi de la partie. Au total, un échantillon de 156 000 salariés. Alors on peut s'interroger sur la méthode statistique. La logique sociologique et arithmétique qui ont été conduites à cette étude, mais elle est quand même relativement représentative, parce que 156 000 salariés, c'est pas rien.
Elle vient d'où, cette étude?
Elle a été faite par un Altair Conseil, qui est un cabinet d'audit et de conseil en management des organisations et des ressources humaines, des préventions des risques et gestion de crise. Le résultat se situe, au total, le résultat se situe en deux zones. 38,4%, c'est un taux d'exposition deux fois plus élevé que les prévisions gouvernementales, 18%. Donc il y a quand même une certaine indépendance, mais aussi très éloigné des 100% souvent avancés. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude de pénibilité qui nous concerne tous? Il y a d'abord de fortes disparités, ce qui bien évidemment s'explique par des métiers à caractère plus ou moins physique ou non. Puisque selon les secteurs d'activité, en matière de confort de travail, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est connu. Ainsi, 43% des salariés de la grande distribution sont exposés à la pénibilité, ils sont 72% dans l'industrie. Et au sein même de ce secteur, l'hétérogénéité de mise des employés de l'agroalimentaire concernés à 70% s'avère parfois particulièrement mal lotie. Quant à ceux du secteur de la chimie fine, touché à hauteur de 29%, ils se situent sous la moyenne nationale. Dans l'industrie environnementale, et dans celle des produits verriers, enfin, c'est plus de la moitié des troupes qui subit la pénibilité, 55% des cas. Ah oui, le verre, quand tu le fabriques, c'est des poussières de verre, hein, c'est du sable,
oui, c'est
du verre.
Oui,
oui ça, voilà, il y a des risques. Hein, et puis, il y a la chaleur quand tu fabriques comme ça. Il y a quand même, dans cette histoire de pénibilité, mais ça, on devra revenir, je pense, sur cette étude, 10 facteurs à prendre en compte dans ce qu'on appelle la pénibilité. Parce que, et ça, c'est important, si tu veux, parce qu'il y a eu, d'abord, par le passé, plusieurs rapports qui ont été publiés sur ce type de domaine, hein, sur la notion de pénibilité. Mais c'est cette étude qui laisse des marques parce que c'est la première qui est élaborée en fait en fonction de 10 facteurs officiels de pénibilité. Ces derniers ont été déterminés par les partenaires sociaux en 2008. Donc c'est un consensus du dialogue social qui a déterminé ça.
Oui, parce que c'est pris en compte dans la retraite. Hein,
ouais, parce que c'est pris en compte effectivement dans le compte personnel de prévention de la pénibilité qui va être mis en place en janvier 2015. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi bien les chômeurs, les précaires que les actifs aujourd'hui.
Donc déjà, c'est étonnant ça. Par quel mystère
Eh bien, en fait, l'analyse, ça fait partie des accords de dialogue social qui a eu
bien sûr, oui,
auparavant.
Mais quelle est la justification?
Alors, la justification, c'est que bruit, posture ou rythme de travail, à chacun ça plaît. En fait, l'analyse de la pénibilité au travail, selon cette liste, révèle d'un secteur à l'autre des différences sensibles selon les facteurs de pénibilité, ce qui est totalement logique. Quand t'es avec un marteau-piqueur, t'as pas le même problème de pénibilité que quand t'es dans la même posture en tant que secrétaire.
Oui,
dans
c'est
bureau.
Sûr, c'est sûr.
Seulement, tu peux aussi avoir des maladies professionnelles.
Oui, oui, tout à fait. Ça,
exactement. Si les salariés de la grande distribution, eh bien, se trouvent au-dessus des seuils prescrits par le code du travail en ce qui concerne les manutentions manuelles de charge lourde ou de bruit, en revanche, ceux de l'échantillon industriel en souffrent également. 10% sont concernés par le premier facteur et 30% sont exposés à des ambiances sonores dépassant les 90 dB. Décibels, ce qui est très fatigant pour l'oreille et les risques de surdité, et c'est une réalité. À l'inverse, les salariés de la grande distribution subissent davantage de postures pénibles, parce que bien sûr, ils soulèvent beaucoup de matériaux. Hein. C'est pour ça que ce secteur est le premier facteur de pénibilité, tandis que dans l'industrie, le principal raison d'inconfort est le travail en séquences successives alternantes. Les roulements de poste selon un rythme, 2 x 7, 2 x 8, 3 x 8. D'accord. Une fois 8, tu travailles le matin de 8h à 16h et ensuite tu vas reprendre, mais tu vas faire du 22h à 6h. Voilà. Qui concerne 53% des salariés dans la production.
Dans la production, dans l'industrie, tu veux dire.
Quand tu fais des 2 x 7, 2 x 8, ou alors tu fais 2 x 8 heures. Tu fais 2 x 8 heures.
Mais dans l'industrie alors.
Dans l'industrie, ouais. Ça, c'est un vrai problème où les 3 8, qu'on appelle les 3 8, tu commences le matin à 8h et puis tu vas reprendre à 16h, mais tu vas pas terminer avant 22h. Ça désorganise chronobiologiquement, ça désorganise complètement l'organisme.
Mais dis-moi, c'est plutôt en baisse alors ce type de pénibilité?
Ça concerne quand même au niveau de l'industrie en France, parce qu'on traite les Français de feignants.
Sont 35 heures.
Ouais, feignants, tu sais combien ça? Parce que c'est 2 x 7, 2 x 8 et 3 x 8. Dans l'industrie, le monde ouvrier, ça a été un des chantages du MEDEF et du patronat contre les 35 heures. Donc aujourd'hui, c'est 2 x 7, 2 x 8, 3 x 8, ça concerne 53% des salariés.
D'accord, donc les rythmes ont changé en quelque sorte.
Exactement.
On a négocié de la flexibilité en échange de 35 heures.
Absolument. donc les derniers diagnostics pénibilité prédressés par Altair Conseil ont été menés fin 2013, donc c'est quand même récent. Hein. Désormais, au vu des résultats présentés, les entreprises ont pour obligation, selon l'article L412-1, alinéa 1 du Code du travail, d'engager des mesures de prévention sur la santé et la sécurité de l'employé au travail. Certaines ont déjà lancé la bataille contre la pénibilité. Alors là, on peut s'interroger. Mais là, c'est un enjeu profond parce que, on a des cadences aujourd'hui en France, alors qu'on nous traite de feignants, parce qu'on a 12% ou 15% de la masse salariale. Enfin, dans le cas d'une société de plein emploi, on a à peu près 15 à, entre, on va dire, plutôt 16 et 20% des actifs qui sont soit en situation de précarité, pré-retraite ou chômage complet ou partiel, etc. Mais il faut savoir qu'on est une des plus grosses productivités du monde.
Oui, bah c'est ce que bon, c'est ce que voilà, c'est ce que dit Eurostat effectivement. Enfin, c'est en reprenant les comptes de l'INSEE, mais bon, c'est toujours très difficile de. Oui, bon, c'est des calculs très compliqués apparemment pour réussir à établir la productivité à l'unité. Mais et alors, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, les Français travaillent plus que les Allemands. Les Allemands ont eu de réels accords de 35, voire moins de 35 heures.
Absolument, absolument. Voilà.
Et effectivement, on a la plus grosse productivité, mais elle est compensée aussi en partie par les vacances. Ouais. Généreusement.
Oui, oui, mais on est une plus grosse productivité du monde. C'est-à-dire qu'en France, on est capable, contrairement, même par rapport au, il y a un facteur culturel aussi. C'est-à-dire que, au Japon, par exemple, on prendra toujours 20, même si on va travailler 10 heures, 11 heures par jour, on prendra toujours le matin de faire 20 minutes de gymnastique ensemble pour ne serait-ce que la cohésion de l'entreprise dans les modèles socio-culturels de l'entreprise, dans les habitudes qui vont créer et cimenter des groupes. Et en fait, il y a un rythme de productivité qui est beaucoup moindre au Japon, etc. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est que du fait qu'aujourd'hui, on est dans une logique d'une masse financière de production de richesses considérable qui est monétisée par le virtuel, gérée par des machines, donc la haute finance, hein, en multitrading, pour l'opulence d'un tout petit membre, c'est-à-dire des actionnaires, des gens qui sont invisibles, qu'on connaît pas. Bon, on connaît les grosses fortunes, hein, comme Madame Bettencourt, Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault, enfin bref. Le tout dans un cadre culturel qui est en train de se mondialiser.
Mais quel est le rapport avec la productivité? Enfin, je cherche.
Oui, et ben, c'est une des questions majeures, c'est que ce modèle libéral qu'on impose à tout le monde, et qui traverse aujourd'hui aussi bien la Chine, hein, qui est plus qu'éveillée, qu'est-ce qui va changer dans la mentalité, mais aussi des façons de travailler, hein. Ça, on peut s'interroger.
Oui, voilà. Bon, grosso modo, les actionnaires pressurent les salariés, donc on est de toute façon de plus en plus productifs.
Absolument.
Voilà. C'est fini sur la pénibilité, parce que concrètement, ça va donner l'objectif de tout ça, effectivement, c'est de permettre l'ouverture d'un compte pénibilité, en fait. Voilà. Et alors, est-ce que c'est en fonction du type de profession?
Tout à fait. Ouais.
D'accord. Et les certaines métiers, professions qui seront, et certains métiers qui seront reconnus.
Fait,
et donc, ce compte
etc.
pénibilité, c'est un peu comme le compte, ce sera un et peu comme le compte épargne-temps. Pour la retraite.
Mais pour la retraite, pour partir
d'accord.
plus tôt.
Mais j'espère qu'ils seront plus généreux que le compte épargne-temps, parce que je peux vous dire que c'est pas.
Ah bah, ça reste très très peu généreux, hein.
Bah, je pense qu'en fait, toutes ces mesures sur la pénibilité, voilà, n'ont pas, enfin bon, c'est très symbolique malgré tout, quoi qu'on en dise. Voilà, bon, en tout cas, l'avenir nous le dira. Bien, écoutez, on va s'écouter une petite musique et puis et ben on va traiter un petit dernier sujet de derrière les fagots. Je vous laisse deviner, enfin, je vous laisse la suite de la musique pour le découvrir.
Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Et donc vous avez sûrement reconnu la voix d'Eddie Mitchell avec son premier groupe Les Chaussettes Noires. Donc ça monte à loin. Voilà, donc je précise toujours que la programmation musicale est l'œuvre de Claude.
C'était le bon temps, il n'y avait pas de chômeurs.
Voilà.
Mais on allait inventer Mode d'emploi.
Mais il y avait des loubards dans les parcs parisiens, loubards qui ont donné des fameux groupes de rock. Voilà, dont Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Alors Christophe, avec quoi vas-tu conclure cette émission?
Eh bien, après la pénibilité au travail, je rappelle les fondamentaux du féodalisme, du libéralisme et du capital, puisque, devinez quoi? Oh, grande chose, refuser de changer ses conditions de travail, est-ce que c'est une faute grave?
Aïe, ça c'est refusé donc devant son employeur, hein, j'imagine.
Donc vous allez m'adorer pour le week-end puisque c'est le temps que la série alimentaire se termine. Continuons à réfléchir. Donc y a-t-il de l'eau dans le gaz dans le code du travail? Eh bien, il y a un gros flou juridique en fait. Puisque dans le cadre de son pouvoir de direction, il faut savoir qu'un employeur peut imposer des changements aux salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un employeur peut aussi décider de sanctionner une faute professionnelle par un licenciement sec, pour faute grave, sans préavis ni indemnité, puisque c'est le principe dans le cas du travail de la faute grave, pourquoi? si une salariée qui est engagée refuse de changer de lieu de travail. Alors dans cette affaire, une salariée avait a engagé, là on parle d'un cas d'école, avait engagé été engagée par une association de solidarité dans le cadre d'un contrat d'avenir, donc un contrat aidé, et suite à son refus d'exécuter son contrat aux nouvelles conditions impliquant le changement de son lieu de travail, l'employeur donc a rompu sec celui-ci pour faute grave. Alors la salariée a saisi des prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de cette rupture. Donc, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie pour rupture abusive de son CDD. Et seulement, voilà, la cour d'appel a relevé que le nouveau lieu de travail n'était éloigné de l'enceinte que de 15 km. Ah. Dès lors, compte tenu de cette faible distance et du fait qu'il s'agisse du même secteur géographique que le précédent, l'intéressé était fautif de ne pas se soumettre au pouvoir de direction de son employeur. En l'occurrence, son employeur avait qualifié son absence sur son lieu de travail de faute d'une gravité telle que la salariée ne pouvait être maintenue au sein de l'entreprise, même pour une durée limitée. Alors là, il y a un problème, parce qu'il y a un flou juridique. C'est-à-dire, quelle est la définition juridique qu'un lieu de travail choisi par une entreprise se situe dans un même secteur géographique, et par quoi et quels critères définit-on la notion de secteur géographique?
Visiblement, c'est les tribunaux qui décident.
Oui, parce qu'au fil de la jurisprudence, on observe que la différence de lieu, même s'il s'avère parfois apparente, peut être considérée comme appartenant à un même secteur.
La différence de lieu, même si... Vas-y, répète.
Il s'avère que, en fonction des jurisprudences... Ah oui, le droit à la fin de l'émission des FPP, c'est pour ceux qui n'en veulent, hein.
Oui, vas-y.
Il s'avère qu'au fil de la jurisprudence, on observe que la différence de lieu, même s'il s'avère parfois importante, peut être considérée comme appartenant à un même secteur.
D'accord. Oui, bon, on a compris. Donc voilà. c'est pas plus clair que, voilà, que...
Voilà.
D'accord. Donc,
alors, voilà, dans l'hypothèse d'une rupture de CDD suite à un refus de salarié de voir changer ses conditions de travail, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, il y a un problème juridique, point.
D'accord.
On est dans le flou et ça va, en flou artistique.
Voilà.
J'aime beaucoup le flou artistique du droit. Voilà. Et,
alors vous pourrez retrouver cette information sur, c'est le site des Échos, qui fait ça, le Cercle des Échos. Voilà. Et pour en savoir plus, je crois qu'il donne les références concernant c'est un juriste qui a écrit l'article, Nadia Arakib. Voilà. Écoutez, cette émission, oui.
Je termine. Ouais, mais je voudrais rendre quand même un dernier hommage.
Cette émission se termine, mais vas-y.
Voilà.
Ton hommage.
Alors, sincèrement, Ida, même si je t'ai très peu connu, je t'ai apprécié parce que t'étais une personne qui a eu une attention à mon égard. Et cette émission, Ida Cohen, ancienne secrétaire générale de la CGT des techniciens et cadres de la ville de Paris, t'est dédiée. J'espère que t'es au ciel et puis que t'es béatifié pour bénir nos luttes. T'es une rare personne qui m'a accueilli à la CGT et puis qui m'a attentionné par rapport à ma situation. Et puis tous les gars, cette émission t'est dédiée, même si tu m'entends peut-être pas là-haut. J'ai fait un truc global, j'ai fait du François 1er, j'ai fait du capital et des services publics. Ida, on t'oublie pas.
Voilà, cette émission se termine. La semaine prochaine, ce sera la Fondation Copernic. Bonne soirée.